Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué, le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Julia, 35 ans. Julia était en couple avec un homme de 41 ans, le père de sa fille, mais vient de se séparer après une ultime infidélité de sa part avec une femme plus jeune. Julia est perdue et en colère.
Bonjour Lucille, je m'appelle Julia, j'ai 35 ans et je te laisse ce message car depuis 2 semaines, mon ex-compagnon qui a 41 ans, qui est le père de ma fille, voilà, m'a annoncé ce dont je me doutais depuis très longtemps, en fait, qu'il était en relation, en couple avec une jeune fille de 26 ans. Ce qui se passe, c'est que je suis extrêmement mal depuis qu'il me l'a maintenant officiellement annoncé. Le fait est que je pense qu'il m'a trompée régulièrement. En fait, moi, j'ai trouvé des messages, une déclaration d'amour à une fille qui était déjà plus jeune que moi à l'époque, mais il y avait quand même moins d'écart d'âge. Au bout d'à peine un an de relation, une jeune fille, jolie, filiforme, mannequin. Voilà, après j'ai surpris d'autres messages. Plusieurs fois, il a été pris, entre guillemets, en flagrant délit. Donc on s'est séparés l'été dernier au prix de, je ne sais pas, 3-4 mois de souffrance absolue pour moi, où je ne savais pas où on en était, où il me faisait mariner, où un jour il était avec moi, l'autre jour il ne l'était plus. J'ai fait, je pense, une petite dépression après tout ça. J'ai très vite vu l'apparition de cette jeune fille. En fait, ils étaient au même endroit, en vacances. Soudain, il m'a moins envoyé de messages. Voilà, j'étais troublée par le fait qu'elle soit jeune, mais je savais pas tout à fait son âge au début. Là, je vis vraiment très mal le fait qu'ils ont 15 ans d'écart. Tout se mélange dans ma tête. Enfin, je pense que ça réouvre déjà des blessures passées, du fait de me sentir pas à la hauteur en tant que femme, de me sentir périssable, avec une date de péremption, en fait, en concurrence avec des jeunes filles, jeunes, filiformes. Et là, il est en couple avec une Instagrammeuse, mannequin, filiforme, de 15 ans de moins que lui. Je suis vraiment hyper mal de ça, j'en fais des insomnies, ça, je me torture en me comparant à elle, je ne sais pas. Ça m'a refait sombrer un peu dans une petite dépression. J'ai l'impression que d'un coup, j'ai reperdu totalement confiance en moi. Et j'ai vraiment une sorte de haine contre lui, une sorte de haine contre elle aussi. Je deviens obsessionnelle et le problème, c'est que c'est le père de ma fille et qu'elle, elle a rien demandé. Voilà, je m'arrête là. Merci d'avance, Lucille.
Chère Julia, je suis moi-même une femme de 35 ans, et je connais bien ce sentiment d'être déjà un peu périmée. Vous ne l'entendez pas, mais je fais des guillemets avec les doigts. Les mauvais jours, je pense à combien je serais avantageusement remplacée par une femme qui aurait fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Moi, j'en ai 3, et le corps qui va avec. Ou alors une femme plus jeune. Ou alors une femme qui serait moins accro au travail, ou qui prendrait plus soin de sa santé mentale et physique. Bref, je serais remplaçable par n'importe qui ferait un peu de yoga et aurait un peu de conversation. Comme vous, cette pensée me révolte, me déprime. Qui a décidé que notre chemin de vie était forcément une perte de valeur? Je ne crois pas que nous soyons des voitures d'occasion. En fait, si j'y réfléchis sérieusement, et hors de mon cycle de déprime, je sais combien moi, en tant que femme, et même en tant que femme qui aime aussi les femmes, j'aime l'expérience, j'aime le vécu, j'aime l'individualité. Les femmes qui me plaisent, qui me font rire, que j'admire, ont plus de 30 ans. Pourquoi je ne retournerais pas ces sentiments positifs envers moi? Parce que je mérite d'être aimée et désirée aussi avec mes 35 ans, mon corps de maman, mon bagage émotionnel chaotique et mon mode de vie pas toujours très sain. Vous devez vous tourner sur vous, Julia, et mesurer pleinement votre valeur. Mais vous devez aussi vous tourner vers les autres femmes autour de vous, qui, je l'assure, ne sont pas une menace. Je vous invite à lire l'essai « Sorcières, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet pour réaliser combien le mythe de la femme menaçante et l'échelle de la valeur des femmes en fonction de leur désirabilité pour l'homme sont des constructions patriarcales pour nous assouvir. Et je veux citer aussi la journaliste et essayiste Laure Adler, femme d'expérience, qui dans une récente interview pour le magazine Cosette répondait à la question « Que faites-vous aujourd'hui que vous ne faisiez pas à 30 ou 40 ans et qui vous rend heureuse ?» Sa réponse est à méditer. À 30 ou 40 ans, je ne faisais pas de jogging. À 30 ou 40 ans, je n'allais pas à la piscine 2 ou 3 fois par semaine. À 30 ou 40 ans, je ne sortais pas dans la rue sans m'être maquillée, ni m'être regardée dans la glace. À 30 ou 40 ans, je passais ma vie à me demander si j'existais vraiment ou si je n'étais qu'une merde. Là, j'existe moi et ça me va très bien. Je me posais beaucoup plus de questions. Aujourd'hui, je passe du temps avec mes amis, car je sais que c'est précieux. Fin de la citation. Trouvez-vous et trouvez des alliés, Julia. Ce ne sont pas les femmes le problème, et ce n'est même pas vous le problème. Le problème, c'est votre ancien compagnon, qui, en ne prenant pas ses responsabilités et en reproduisant ses schémas toxiques, vous a fait croire que vous n'aviez plus de valeur, alors que chaque jour qui passe vous en apporte un peu plus. Pour parler de ce passage de la pré-quarantaine, parfois difficile dans la vie des femmes, j'ai rencontré la naturopathe, thérapeute et autrice, Johanna Dermy. Je lui ai d'abord demandé comment lutter contre le sentiment d'être périssable.
De manière générale, toute chose a un début, un milieu et une fin. Donc nous sommes d'emblée périssables. Toute chose est périssable. Elle a un milieu de vie, de maturité, et puis il y a une fin aussi de la relation de vie pour une femme. C'est comme pour tous les êtres humains, en fait. Même les arbres dans la nature ont une fin. Il faut accepter cette évolution. À partir du moment où on est vivant, on est dans l'évolution de la vie. Donc, en fait, accepter et aussi peut-être en profiter et vivre l'instant présent, sachant que comme on est périssable, comme vous venez de dire, pensez aussi qu'on peut être aimable dans cette périssabilité, j'invente un mot, mais qui peut être intéressant parce qu'on est connecté à l'intemporalité des choses en même temps, tout en sachant que c'est temporel aussi.
Puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voyait chez les femmes de 35, 45 ans et plus qui n'existait pas chez les femmes plus jeunes.
Alors, il y a plusieurs cycles dans la vie. Il y a les 20-30, hein, de manière générale, et puis les 30-40, et les 40-50, et les 50-60, et après plus, si affinité. Donc, dans les 35-45, on est plus avec des femmes qui sont en questionnement profond. Est-ce que je vais continuer de vivre comme j'ai déjà vécu mes 35 premières années? Est-ce que je vais provoquer un tournant? Parfois, le tournant est provoqué par la vie. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir des infidélités, il peut y avoir des maladies importantes qui obligent aussi à se repositionner. Il peut y avoir le chômage aussi aujourd'hui, la fin d'un travail. Et donc, ça, nous, quelque part, ça va engager la femme à se repositionner et à se remettre en question. C'est un grand tournant qui est important aussi de pas vivre à la légère et d'être bien connecté à cet espace-là parce que c'est comme une fenêtre qui s'ouvre effectivement sur la réalité de la vie parce que la maladie, l'infidélité, le chômage, c'est pas simple, mais en même temps, c'est porteur d'espoir.
Comment activement travailler sur son épanouissement physique et mental en tant que femme de 35 ans et plus ?
Accepter d'abord la périssabilité des choses. En même temps, trouver des personnes qui peuvent nous aider à traverser cet espace, qui l'ont déjà peut-être traversé elles-mêmes ou qui sont en cours de le traverser. C'est pas forcément une thérapie qui peut aider. Ça peut être une rencontre avec un livre, ça peut être une rencontre dans le travail, ça peut être une très bonne amie, un très bon ami. En tout cas, c'est important, c'est de s'ouvrir et de parler. De dire qu'il y a un moment où je suis en train de me positionner pour mon tournant, et est-ce que toi, par exemple, tu peux m'aider, toi qui es mon ami depuis toujours, tu peux m'aider, ou toi, mon ami I, tu peux m'aider. La parole est vraiment, vraiment importante dans ce moment-là. Alors, c'est tout un travail que les femmes ont à faire, à apprendre à être entre elles, parce que dans la généalogie, on n'a pas forcément appris à être ensemble avec les femmes. Les femmes se retrouvaient ensemble dans l'ancien temps autour des fourneaux, autour de la couture, autour du tricot, autour dans les champs. Mais c'était pour faire quelque chose. Tandis que là, effectivement, la sororité va développer être ensemble pour ne rien faire, pour juste discuter, pour prendre une bière après le travail, ou pour prendre un thé ou tout simplement se prendre dans les bras et être en connexion avec l'autre et être capable de sentir que l'autre peut m'apporter quelque chose. L'autre femme en face de moi, même si elle est différente de moi, elle peut m'apporter quelque chose. Et ça, la sororité ouvre à ça. La sororité, ça veut dire comment est-ce que je peux développer l'amitié avec les femmes sans être dans la compétition, mais plutôt dans la coopération.
Comment transformer la colère de l'injustice en sentiment positif pour soi?
La première chose, c'est vraiment d'accepter ce qui se passe. En fait, on n'est pas au moment, quand on vit l'infidélité, par exemple, on n'est pas au moment de se dire « j'accepte ». On est au moment de se dire « je regarde ». Je regarde ce qui se passe et l'infidélité, par exemple, c'est comme un AVC, c'est comme un tsunami, c'est comme un arrêt cardiaque. C'est quelque chose qui prend celui qui est spectateur de la situation, qui va prendre l'autre comme si on donnait un coup de poignard à l'intérieur du cœur. Et déjà, accepter que j'ai reçu ce coup de poignard à l'intérieur du cœur et de pas vouloir tout de suite l'enlever. Parce que si je l'ai reçu, on dit bien que dans un couple, on est 50% responsable de ce qui se passe. Et donc, à partir de là, une fois que j'ai regardé, que j'observe, je peux aller travailler sur qu'est-ce que ça me fait cette blessure et pourquoi elle est là. C'est comme un tsunami. Donc un tsunami, il arrive, on sait pas quoi faire, on apprend à nager dedans et après on se retrouve, le tsunami est parti, on se retrouve tout seul sur la plage, toute seule sur la plage. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais voir les personnes qui sont en face de moi et qui viennent me sauver. Il faut s'entourer, ne jamais rester seule avec sa colère.
Enfin, je lui ai demandé si elle avait des conseils culturels, livres, films ou vidéos, pour les auditeurs et auditrices qui seraient curieux d'en découvrir plus sur le sujet.
Ce que je trouvais intéressant, parce que j'ai écouté plusieurs conférences de Jacques Salmomé, de Christiane Singer, j'ai vraiment trouvé, en me nourrissant de ces conférences, que, en fait, je ne suis pas responsable du bonheur de l'autre. Et il n'est pas responsable de mon bonheur. Je suis responsable de mon bonheur. Je suis responsable de ma vie. Et c'est vraiment ce qui ressort de tout ce que j'ai pu écouter, l'accord avec soi-même, se coucouner soi-même et être vraiment en joie d'être avec soi-même. Alors, les conférences sont accessibles en ligne, elles sont sur YouTube, donc ce sont des conférences de Jacques Salomé et de Christiane Singer. Jacques Salomé, c'est un grand psychologue clinicien qui a formé plus de 70 000 personnes et d'accompagnants, qui a fait plus de 63 ouvrages, donc c'est un grand monsieur de la relation et qui a créé la méthode ESPER, qui est la méthode de la relation à l'autre. Et Christiane Singer, qui est décédée malheureusement ces derniers temps, c'est une femme qui est psychologue, philosophe et qui nous aide beaucoup sur le chemin de notre vie par ses écrits, par ses conférences et aussi par sa belle présence. Anne Romanoff a eu un déclic, elle a fait un woman show sur la quarantaine et elle dit quelque chose de très drôle, qui n'est pas très poli mais qui est très drôle quand même, donc je vous le dis. À 40 ans, c'est l'âge de la maturité. À 20 ans, tu gueules. À 30 ans, tu fais la gueule. À 40 ans, tu fermes ta gueule. Et je trouve que effectivement, à 40 ans, on essaie de comprendre ce qui se passe, donc on évite de parler trop vite, d'intérioriser d'abord ce qui s'est passé, de laisser le silence s'installer à l'intérieur de nous, et à partir de là, de développer une attitude positive envers soi et après envers les autres.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film « Laisse tes mains sur mes hanches » de Chantal Lobby. Cette comédie française, sous ses airs légers, aborde la question du vieillissement des femmes et de la pression de la société. C'était C'est compliqué, le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'est compliqué @slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.